Service après-vente de la F1.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième numéro du service après-vente de la Formule 1. Un service après-vente un peu spécial puisque ce sera le dernier de la saison 2008 consacré au Grand Prix du...
Brésil.
Ah, bonjour Shinji.
Bonjour.
Tu es une bouffée de bonjour de la semaine.
C'est gentil.
Mais de rien. Alors, Grand Prix du Brésil au Brésil.
Oui.
C'est logique.
18e,
18e manche de la saison.
Exact.
C'est attendu. Le mec a rien à dire. Allez, vas-y, Shinji, je te repasse le bébé. Allez. Vive Obama.
Oui, parce qu'on enregistre mercredi, hein. Donc,
ah, voilà. Bon, s'il reste encore quelques résultats à dépouiller, hein, on est en mesure de vous annoncer que Nelson Piquet va rester chez Renault.
Oui, hein, sans doute.
N'empêche, le truc, autant Obama, c'était pas une surprise, mais autant Nelson Piquet, c'est une surprise.
Ah bah, oui, enfin...
Non, on va garder Piquet pour plus tard.
Ouais.
On nous sent motivés sur Piquet, hein, l'idée de l'avoir une deuxième année, ça nous électrise. Donc, voilà, on en était où? Au Brésil, c'est ça?
Brésil.
Oh, c'est comme...
d'Interlagos.
Ça commence bien cette année.
Entre les lacs.
Oh, hey, vous avez vu, Shinji, il parle chinois, il parle. Tu parles espagnol aussi, Los Cuevas Gomas.
Ouais.
Et maintenant, tu parles brésilien.
Portugais.
Portugais, bah ouais. Enfin, hein. Comment il reprend sa trompe, mais je rêve.
De son vrai nom, Autodrome José Carlos Pache.
Et d'ailleurs, c'est qui José Carlos Pache? Il ne sait pas ça, Shinji, la honte.
Si, je sais qui c'est.
Ah.
C'est un pilote de Formule 1 qui est décédé au milieu des années 70, un accident d'avion, et donc, en son honneur, on a renommé le circuit. D'ailleurs, il y a gagné. Il y a même une statue, enfin un buste, à l'entrée du circuit.
Et ça fait combien de temps qu'on y va sur ce circuit?
Alors, dans cette configuration-là, depuis 1990, sinon il y a un Grand Prix du Brésil depuis 1972, qui était déjà à Interlagos.
Ah oui, la vache!
Oh,
le circuit, je viens de voir, et je connaissais pas du tout cette version du circuit.
Le vieux circuit d'Interlagos.
Oh la vache, le nombre de virages qu'il y a.
Et donc on y est de façon continue depuis 72. Et à part dans les années 80, on était à Jacarepaguá, donc c'est à Interlagos. Et oui, l'ancien circuit, il faisait près de 8 km.
Oh, je connaissais pas du tout. Et comme quoi, on découvre des trucs tous les jours.
Et donc, quand ils sont revenus à la F1, on a eu cette configuration actuelle. Donc, on a réduit sensiblement le nombre de virages.
Ouais. On a supprimé 1, 2, 3, 4, 5, 6...
Il y a même un virage qu'on prend à l'envers par rapport à avant. Mais il faut bien regarder le dessin.
Attends, je regarde bien. Ouais. Ah ouais,
c'est de l'ago, là.
Ouais, voilà.
Au bout de la zone ligne droite.
C'est le fameux Ferradura.
Voilà.
Ouais, effectivement, même Subida do Lago. Donc voilà, pour voir ce tracé, vous allez sur statf1.com, vous cherchez Grand Prix, vous regardez Brésil et Interlagos, et vous aurez le tracé. Voilà. Il est beau. C'est Herman Tilk qui l'a fait?
Non.
La question qui suit.
Non.
Eh ben, ça se voit. Non, je ne suis pas fan de circuit, non. Donc, vas-y, continue sur ce circuit.
Oui. Donc, le circuit fait 4 km 397, 15 virages. Alors, il faut distinguer le secteur 1 et le secteur 3 d'un côté, et le secteur 2. C'est-à-dire que le secteur 2 du circuit est très sinueux. Hein, il y a facilement...
Il y a 8 virages, je crois.
Voilà, il y a 8 virages. Et donc, le secteur 1 et 3, qui correspondent donc à la très longue ligne droite des stands, plus la ligne droite opposée.
Plus le S-Dourcine.
Voilà.
Comme le S-Dourcine.
Et la montée vers la ligne droite, donc qui sont, eux, plutôt rapides. Donc, comme c'est une vieille piste, c'est pas extrêmement large. Pendant longtemps, même si ça s'est amélioré ces dernières années, c'était assez bosselé.
Ouais, et c'est vrai qu'ils ont fait... Quand on en a beaucoup parlé ce week-end, et c'est vrai qu'on a toujours l'exemple d'un circuit qui disparaît pour la saison prochaine, c'est le circuit de Montréal. Mmh. Et c'est vrai que on a un circuit à Interlagos qui est pas un circuit qui a énormément de moyens, c'est pas un énorme budget, mais ils ont fait les travaux qu'il fallait faire. Alors que c'est vrai que à Montréal où on a le même budget, on n'a pas fait autant d'efforts. il y a des petits efforts qui ont été faits et puis des petits efforts qui ont sauvé le circuit, et notamment et tous les ans ils ont raboté les bosses, les fameuses bosses de la ligne droite. Ils font régulièrement le revêtement, donc tout ça c'est des petits efforts qui font que le circuit aujourd'hui peut être sa place.
Voilà, et signaler que c'est un circuit très vallonné, alors qu'il est vraiment en pente, c'est-à-dire qu'on est en haut de la côte, au niveau de la ligne droite, les S de Senna on descend vraiment sur le reste du circuit et on remonte, parce que c'est une vraie montée, vers la ligne droite.
En plus, à l'heure où on a des circuits comme le circuit d'Abu Dhabi ou le circuit de comment ça s'appelle, le circuit du pôle Val-de-France, qui cherche à trouver des solutions pour assurer la plus grande visibilité du circuit au maximum de spectateurs, c'est vrai que là on a un peu un circuit qui passe en rappeler les circuits de NASCAR, où on voit quasiment toute la piste, il suffit juste d'être dans la tribune principale, et c'est vrai qu'on peut voir en dégradé toute la piste et ce qui se passe au bout.
Sinon on peut noter qu'il est à 800 mètres d'altitude,
ouais.
Ce qui fait perdre un peu de puissance moteur au véhicule, je crois.
Ce qui explique pourquoi Hamilton il était lent.
Oui, pourquoi pas.
Voilà, hein.
Alors quelques données. La Vmax, donc qui doit être au bout de la ligne droite opposée, elle est d'environ 315 km/h. La moyenne, elle est de 215 km/h, ce qui est pas mal, hein, on dirait pas comme ça. Je m'étais toujours imaginé un circuit plutôt vallonné, assez tortueux, mais en fait, on peut aller quand même assez vite. Et donc le temps autour, cette année, il était de 1:12 environ, sachant qu'ils sont descendus en dessous lors des qualifs.
C'est un beau circuit rapide et moi j'ai toujours aimé.
Oui, mais je connais peu de gens qui aiment pas ce circuit d'ailleurs.
Ouais, bah en plus, sérieusement, on l'a vu ce week-end. Moi, j'avais jamais vu. Ça fait on va dire 15 ans que je suis la F1. Bon, j'ai très peu de souvenirs des circuits d'Argentine, etc. Mais j'avais jamais vu autant de folie sur un circuit que ça.
Ah oui. Oui, tu le dis depuis 15 ans, mais c'est vrai que ça faisait 15 ans qu'un Brésilien. Voilà. Mais c'est vrai que c'était vraiment génial. L'ambiance, c'était incroyable. Puis, c'est vraiment un magnifique écrin pour une finale de championnat du monde. C'est une vraie fête populaire.
C'est à espérer que l'année prochaine, le titre se joue à une course de la fin.
Ouais, c'est vrai.
On va aller à la dernière course du calendrier 2009, c'est Abu Dhabi, où il y aura 50 000 spectateurs triés sur le volet, alors que là, il y en a, je crois que c'est 80-90 000. C'est populaire, c'est festif, c'est... Moi je dis ça doit se tenir au Brésil quoi. On a eu des années où c'était Suzuka qui finissait le championnat où c'était très beau parce que c'était un beau circuit. Là on a un beau circuit avec une ambiance de feu et faut qu'il garde sa place à cet endroit-là.
Le Brésil et l'Amérique du Sud ont tellement donné à la Formule 1 qu'ils méritent bien ça.
Voilà. C'est vrai que ça fait quand même deux saisons qu'on a un beau final. Là c'est vrai qu'il était particulièrement beau parce que il y avait un Brésil
incroyable et fou. Le final.
Ouais, c'est vrai, mais assez identiques les deux en fait, quand on y réfléchit.
Ouais, c'est-à-dire que le rebondissement l'an dernier, c'était surtout en début de course, et là, il s'avère que ça s'est passé vraiment en toute fin.
Alors, on a déjà gagné sur ce circuit.
Si on reprend les dernières années, il y a quand même un homme qui se détache, c'est Felipe Massa, qui est en 2006,
voilà.
Qui aurait dû gagner en 2007. Et donc, qui a survolé aussi 2008.
Alors, je vais y arriver. Je sens, je vais y arriver. Voilà, Brésil. Mais non, c'est la Chine. Ah, c'est pas vrai. Je suis maudit. Alors, voilà, donc 2006, 2007, 2008, c'est victoire de
Ferrari.
Et sur Ferrari. En 2005, c'était la victoire de quelqu'un dont on se rappelle presque plus le nom aujourd'hui. Hein, pour sa dernière avec... c'est même sa dernière tout court, je crois.
C'était pas sa dernière.
Ah bon?
Bah non.
Alors on parle de Juan Pablo Montoya.
Bah oui.
Il avait gagné où ailleurs?
Ah, mais peut-être que début 2006... Ah non, je sais plus. Non, ah, t'as raison.
Un gros doute, hein, moi. Cette victoire. Ah ouais, c'est la dernière.
D'accord.
Après, il a fait le con.
Ouais. Puis, en 2004, déjà, il avait gagné aussi.
Oui, pas pour sa dernière course
chez Williams.
En 2003, c'était victoire de Ah ouais, victoire.
Grande physique est là dans des conditions dantesques.
Assez dantesques. La dernière fois où on avait eu d'ailleurs, je crois, le Grand Prix du Brésil en début de saison.
Oui.
Kimi Räikkönen qui était vainqueur, qui a participé au podium et puis en fait. On a arrêté la course un tour plus tôt et Fisichella était passé. Donc on a rendu le trophée à Imola, on a rendu le trophée à Fisichella et Räikkönen a fini deuxième.
Voilà.
Voilà. Sinon, 2002 c'est Schumi. Mmh. Et puis on va voir, je crois que la dernière victoire de Senna là-bas, ça doit être 93 je crois, non? Voilà.
Exact.
93. Devant Damon Hill et Michael Schumacher. Et c'est d'ailleurs, je crois, non, je dis une bêtise.
Non, bah non, parce que comme c'était en début d'année.
Saison, ouais. Bah, c'est vrai qu'en 2000, en 94, il avait gagné aucune course, même s'il était en tête du championnat, je crois.
Non.
Il n'est pas en tête du championnat et puis il avait gagné aucune course.
En 94.
Ouais.
En 94, il a fait 3 pôles à ses 3 premières courses. Il a foiré ses 2 premières et la troisième, on sait malheureusement tous comment ça s'est terminé.
Ah ouais, donc il a jamais gagné en 94.
Non, il a jamais gagné en 94. Oh,
voilà, faut quand même que j'ai raison de temps en temps, hein. Voilà, je me révolte. Donc, toi qui es notre expert en chiffres, peux-tu nous rappeler les hypothèses pour qui sera champion ou qui ne sera pas champion?
Alors, pour faire simple, chez les pilotes, pour que Massa soit champion, il fallait qu'il gagne la course et que Hamilton ne finisse pas mieux que 6e.
Voilà.
Ou bien, s'il finissait 2e, que Hamilton ne finisse pas mieux que 8e. Voilà. Sachant qu'en cas d'égalité, c'était de toute façon à son avantage.
Ouais, parce que s'il remporte la course, il avait une victoire en plus. Et voilà, il finissait 2e, il avait une 2e place en plus.
Exactement.
Voilà. Et donc Hamilton, lui, voilà, il a juste à se coller dans le diffuseur.
Il a besoin, voilà, à gérer.
Ok. Autre.
Puis bon.
Oui.
Non, juste pour dire que les constructeurs.
Mais c'est joué, ça.
C'était presque joué. Il n'y avait pas trop.
De... Ouais, non, mais là, c'est bon. Il n'y a pas de suspense là. Oh. Il n'y a jamais de suspense avec Ferrari. Ah non. Et vous n'avez rien appris des années Schumacher, c'est pas possible ça. Hein? Bon, d'accord, on en est loin. Ok.
Ouais, on en est loin.
Non, là, on avait, on avait 11 points d'avance.
Oui, voilà.
11 points d'avance. C'est quoi? C'est un gouffre. Mais nous, on avait 2 pilotes. McLaren, ils ont pas 2 pilotes. Ouais, c'est méchant ce que je viens de dire.
Mais c'est pas faux cette remarque.
Même à l'époque où il y avait Irvine. Oh là là, la transition.
Ah oui.
Irvine, dont on fête le 43e anniversaire cette semaine.
Ouais. Hein?
C'est bien, il a presque l'âge de Barrichello. Elle fait pas si bien quand on la répète. C'est drôle. Hein. Alors là, vous êtes en train de rire. Nous, on ne rit pas parce qu'on l'a déjà fait il y a un quart d'heure. Et je crois qu'on était mort de rire à ce moment-là. Et puis, fallait que je l'insère. Voilà. Donc,
voilà.
Ok. Cette saison est nulle. On va toujours commencer à zéro, je sens. Donc, oui, voilà, ça c'est pour les hypothèses du titre. Autre information sur la course, c'est une course qui s'annonçait relativement humide.
Humide, un peu à l'exemple de la saison, hein. Comme c'est quoi, vrai. C'était vraiment une fin appropriée.
Parce qu'on a eu, on a eu Monaco qui était sous la pluie, on a eu Silverstone, on a eu quoi d'autre?
Spa,
c'était juste à la fin, mais bon, quand même.
Mais bon.
Le Brésil, donc ouais, on a eu bien un gros tiers de la saison qui s'est passé sous la pluie, au profit de d'Hamilton souvent, mais pas cette fois-ci. Ouais.
Ah, donc vendredi, il a pas vraiment plu, enfin il y a eu quelques gouttes lors des essais, mais pas grand-chose. Samedi, rien. Dimanche, alors c'était la grande question, parce que là vraiment les risques de pluie étaient vraiment les plus importants, est-ce qu'il pleuvrait pas sur le blog de Moncé, il y avait des topics, des articles 2 heures avant.
Ah ouais, si
il va pleuvoir ou pas.
C'est Malbranck qui avait demandé à Piquet Senior et à Fittipaldi, puis ils avaient dit non, il pleuvra pas, et hop, il pleut pile poil 5 minutes avant le départ.
Ah, c'est incroyable, c'est-à-dire que 1 heure avant, oui, on pensait que ça tiendrait tout ça. Il y a F1 à la une, il y a la pub, le temps de la pub, hein. Il y a la retransmission qui commence, et là, trompe d'eau.
Voilà.
C'était incroyable.
Et puis quand ça s'est arrêté, ça s'est vu tout de suite. Hein. C'était bien humide sur la piste. On avait la vue de la grille, vue de derrière, donc légèrement dans la pente. On voyait bien la piste qui était bien noir brillant, avec les voitures qui ressortaient super bien. C'était très beau. Mais j'ai très belle image.
Et donc on pensait que au bout d'un moment, quand même vers le milieu de la course, on pouvait même penser que la course finirait assez tranquillement. Et puis il y a eu ce petit plan. Je me rappelle encore, je l'ai dans la tête. Ce petit plan de caméra sur un radar météo avec ce panache bleu.
Et là, faut...
Et là, tout de suite, avec le...
Tout le monde s'est mis...
radio de je sais plus qui, en disant « Rain in 5 minutes
!» C'est dans la radio de Kubica, je crois. Et là, on a...
Ça doit être ça.
On a senti monter des tribunes, un truc qui est difficilement compréhensible. C'est tout le monde s'est mis à hurler « Chuva ».
Chuva,
qui veut dire la pluie.
Ah, alors,
imaginez des Brésiliens, environ 90 000 Brésiliens, qui pour porter leur champion Massa, demandent la pluie. À Massa.
Ouais.
Ils ont pas dû voir la course.
Ils étaient désespérés, hein.
Et c'est vrai qu'en fait, la pluie était plutôt favorable à Massa.
Oui, pour
lui,
le coup.
Lui étant en tête, entre guillemets, n'avait pas nécessairement à faire de fautes et à attaquer. Non. Alors que ceux qui étaient derrière avaient plus à perdre.
Oui.
Voilà.
Donc, oh oui.
Ça c'était pour la météo. Rien d'autre à dire.
Non.
Non. Donc on peut directement passer à la course, enfin aux qualifications.
Oui, avec la grille.
Avec la grille. Alors, grille de départ. Allez, on va faire suspense à partir de la fin.
Waouh.
En 20e position, Adrian Sutil. Sur ouais, Forcia.
Normal.
Hey. C'est la pole.
Non, mais à l'envers.
C'est la pole. Juste devant se trouvait Giancarlo Fisichella.
Bah, là encore. Hein,
Déception pour Nico Rosberg.
Oui, ah oui, là.
Autant on s'attendait pas à ce que la Williams marche en Chine alors qu'elle y a marché, autant on espérait qu'elle marche au Brésil et puis bah Williams ils ont.
Ça a été mauvais. Hein.
Jenson Button 17e.
C'est la Honda.
Bah, c'est la Honda.
Chose d'autre à dire.
Puis Button, en cette fin de saison, Button, il est plus dedans, quoi.
Non.
Je crois qu'il espérait qu'Alonso vienne pour aller chez Renault. Eh ben, c'est perdu, Johnson. Alors, 16e, Nakajima.
La preuve, hein, les Williams, c'était pas top.
Donc, ça, c'est pour les éliminer de la Q1. En Q2, premier éliminé, Barrichello, 15e. Il est allé en Q2, c'était déjà bien. Avec son super beau casque.
Oui.
Alors, c'était le casque d'un de ses amis, un pilote brésilien.
C'est ça, voilà.
Man, qui a piloté avec lui au tout début. Et on se souvient déjà que Barrichello avait pris le casque c'était aux États-Unis, au Grand Prix des États-Unis, il y a deux, trois ans, je crois. Il avait pris le casque de Canaan. Et là, il a repris le casque de Hoffman, un magnifique casque rouge et jaune or. Parce que son ami partait à la retraite. Fallait-il ou pas un symbole, hein. En même temps, comme je disais, on a vu une magnifique opération, hein. C'était l'opération pour la dernière course de Coulthard. On a fait la voiture Coulthard tout en blanc.
Ouais.
Hein. Je pense qu'à ce moment-là, quand même, Barrichello a dû comprendre le message. Voiture blanche, retraité, il a dû empiler les Lego, quoi. Hein. Plus le casque d'un retraité, et puis, il continuait à dire, non, hein, le 2009, je veux être champion. Bah justement, tiens, comme on parlait de Coulthard 14e.
Ouais.
Pour sa dernière course, un classique cette saison, hein, il est...
Non. Cette année, c'était l'année de trop. Il fait bien de partir.
Ouais. En 13e position, nous avons
Robert.
Robert Kubica. Mais qu'est-ce que tu fous là, Robert? Hein? T'as oublié de mettre des roues? C'est quand même pas compréhensible, quoi, Kubica.
Bah, bon, c'est vrai que la BM 2008 a été un peu abandonnée.
Putain,
c'est vrai que là...
Mais voilà, Heidfeld qui est 8e et Kubica qui est 13e.
Bah, il est complètement démotivé, je crois. Hein.
Mais bon, à un moment donné, c'est aussi un espèce de manque de sérieux, quoi. Il y avait quand même en jeu sa 3e place, il fallait qu'il la défende, et là, en partant 13e, étant donné que Raikkonen s'est lancé pas mal pour une fois, c'est pas... Moi, je trouve que c'est pas pro. C'est un peu facile de baisser les bras. Mm. Bon, c'est bien, hein, tout ce qui l'intéresse, c'est la victoire, c'est d'être pour le titre, etc. Mais bon, moi je trouve que c'est un peu gâché, quoi. Il y a des mecs qui demandent d'avoir leur place en F1 et qui sont pas comme ça. Pourtant, j'adore Robert.
Ouais, on l'aime bien, Robert.
Et je le critique. Oh, c'est dingue. Ensuite, en deuxième position, Marc Weber.
Ouais, bah pour la Red Bull, c'est normal, j'ai envie de dire.
Voilà, il est toujours devant Coulthard. Il est
dans la Q2, mais...
Généralement, ça faisait quelques courses qu'il arrivait à se glisser en Q3. Mm. Et là, en 11e, la notre révélation. Chouchou. Notre chouchou, Nelson Piquet Junior. Voilà, 11e.
Bah, voilà. La Renault va mieux.
Ah oui, la
Renault. Et lui, ça se voit pas.
Voilà. Et c'est pourtant, là, faut quand même que j'aille vérifier. Parce que, comme on est mercredi après-midi, normalement, on doit y voir une annonce aujourd'hui. Et j'attends l'annonce officielle. S'ils officialisent Piqué, je ne comprends pas.
Sur RMC, ils ont dit que ça changeait pas.
Mais RMC, c'est...
Et sur une dépêche France Info, ils disent que ça change pas. Mais c'est vrai qu'en F1, tant qu'il n'y a rien d'officiel, c'est bien connu.
Ah, Alonso a déclaré « J'ai décidé de rester au sein de l'équipe ING Renault F1 Team, car comme je l'ai répété toute l'année, cela a toujours été mon premier choix, et car je me sens très heureux et à l'aise dans cette écurie. » Faux cul.
Ah, F1 Live. Renault confirme ses deux pilotes pour 2009.
Oh la vache. Mais qu'est-ce qu'ils ont picolé. Qu'est-ce qu'ils ont été boire. Non mais n'importe quoi. Alonso, d'accord, mais piqué, pourquoi, hein?
Voilà la bonne question. Pourquoi?
Ils nous font une McLaren. Il n'y a que le titre pilote qui nous intéresse. C'est n'importe quoi. Briatore, t'as tort. Alors, ensuite, 10e position. Oh, on est à fond aujourd'hui. 10e position, Timo Glock.
Oui, bah ça devient une habitude aussi pour Toyota d'être dans la Q3.
Mais il est un peu en retrait par rapport à ce que va faire son coéquipier. Mm. Surtout qu'il est, loin derrière. Mais quoi que non, il y a le plein.
Là.
C'est vrai qu'il, ouais. Je crois qu'il était parti sur une stratégie très très lourde.
Oui, comme le 9e d'ailleurs.
Voilà, comme le 9e qui est
Sébastien Bourdais.
Qui en plus n'a fait, il me semble, qu'un tour.
C'est possible.
Puisque non, généralement dans la Q,
Q3.
Dans la Q3, il y a généralement ils font deux tours et là il avait sauté le premier tour. Mm-hmm. Pour n'en faire qu'un en partant avec.
Bah, sans doute que avec le plein, il pensait pas pouvoir faire.
En 8e position, donc, Nick Heidfeld.
Bah, c'est bien, Nick Heidfeld. Surtout bah, par rapport à Kubica.
Bah, voilà.
Montre que on peut, bah, la BM, même si elle est à la ramasse un peu en fin d'année, on peut en tirer quelque chose.
Alors, pourtant, je critique la saison de Nick Heidfeld. Autant, faut avouer que bah, là, franchement, il n'y a rien à lui reprocher.
Ah non.
La saison, il est présent au poste, il est là, alors que Kubica a baissé les bras et que. Fait pas d'efforts. En même temps, c'est vrai que Kubica, j'en avais déjà parlé, il a un petit peu raison.
Oui, il a pas le tort.
Titre, on lui a pas donné l'occasion, on l'a pas fait numéro 1 de l'équipe alors qu'il était en course pour le titre. À la limite, c'est vrai, l'équipe veut pas se battre pour lui, il a raison de pas se battre. Mais quand même. En 7e, nous avons
Tell. C'est encore, c'est même plus une surprise.
Non, il est même un petit peu en retrait.
Oui, c'est vrai, en général, il se qualifié plutôt 6e.
Voilà, là il est 7e, mais parce qu'on a la surprise.
Parce qu'il y a une surprise.
Ah, ah oui,
moi,
il y a
j'aurais pas dit celle-là.
Oh, mais là, généralement Vettel il se qualifie avant que Kovalainen.
Oui, c'est vrai.
Alors, 6e Alonso.
Oui, ça va. On aurait peut-être pu espérer mieux parce que c'est vrai que la Renault marche bien. Marche
en plus,
même très bien.
Il avait signé les meilleurs temps de la séance du vendredi après-midi et du samedi matin. Oui. Bon, à chaque fois à la dernière minute, mais c'est vrai que la Renault avait l'air de bien marcher. Je pense qu'ils ont voulu aussi peut-être partir un peu plus lourd.
Oui.
Je crois que Alonso était un poil plus lourd que Massa. J'ai plus souvenir. Donc voilà, 5e et Kiko Valainen. Voilà.
Et bah, il montre encore toute l'utilité qu'il a pour mettre la reine.
Ouais.
C'est vrai qu'en étant derrière son coéquipier. Vu les circonstances, c'est pas très utile.
Il le protège d'Alonso.
Oui, c'est vrai.
Donc, justement, comme tu disais derrière son coéquipier, ah, il est tout jaune. Ah, oh non.
Oh. Dis calme.
Oh, t'avais pas fait gaffe.
Il va falloir que tu t'habitues. Oh non. Et qu'est-ce que ça va être l'an prochain lorsque les voitures vont être révélées? Ah, quand il y aura ce numéro 1.
Oh, Bon, pour une fois que c'est mérité.
Oui, c'est vrai.
Il faut quand même rappeler que McLaren avait porté le numéro 1 sans le mériter, puisque c'était une victoire de Renault. Donc Hamilton 4ème.
Oui. Bah, il a fait ce qu'il devait faire. Hein. Comment dire, il doit pas prendre de risques.
Ouais, mais quand même.
C'est vrai que on se rend compte que s'il s'était mieux qualifié, il aurait évité beaucoup de problèmes en course.
Et on a senti, en fait, on a vraiment senti chez McLaren ce week-end, je dirais pas une sorte de relâchement, mais beaucoup de prudence.
Oui.
Ils n'ont pas nécessairement énormément roulé, ils ont vu que la voiture roulait bien vendredi, et on n'a pas l'impression qu'ils ont cherché à optimiser la voiture, et se sont contentés de se dire, voilà, la voiture marche bien, donc on se bouge pas plus.
C'est vrai qu'avec ce qui s'est passé l'an dernier, on les comprend.
Voilà, moi j'en suis quand même convaincu que Hamilton aurait pu faire largement mieux que ce quatrième temps. Mm. Surtout qu'il est pas loin de Raikkonen qui est troisième en 1.12.825 alors que Hamilton est quatrième en 1.12.830.
Ah oui, oui. Vous pouvez sans doute aller le chercher.
Donc voilà. Raikkonen qui fait son boulot en étant troisième.
Oui.
Alors, on va dire, il peut être déçu d'être troisième parce qu'il aurait pu être deuxième.
C'est vrai.
En même temps, on sait qu'une troisième place sur la grille à Interlagos, ça équivaut un peu à une deuxième place.
Oui. Puisqu'il est sur le bon côté de la piste.
Voilà, il l'a dit lui-même, c'est vrai que s'il y a bien un circuit où le côté 1, le côté pair, est vraiment jamais visité par une voiture, il n'y a vraiment personne qui y passe, c'est bien Interlagos.
Puis l'idée d'avoir une voiture, d'avoir les deux voitures même devant Hamilton.
Voilà.
Parce qu'ils y croient quand même chez Ferrari à ce moment-là.
Et je dirais. Bah, à ce moment-là, comme, voilà, pour finir la grille, Trulli deuxième et Massa premier. Massa, il est virtuellement vainqueur de la course. Hamilton oui. est virtuellement quatrième, donc Hamilton ne prend que 5 points. Quand Massa en prend 10, donc à ce moment-là, virtuellement, il n'y a plus que 2 points de retard pour Massa.
Voilà. Et tout peut arriver.
Et everything can happen.
Là, à ce moment-là, tout peut arriver. Alors vous imaginez, lors du départ, où justement il se met à pleuvoir.
Surtout qu'on est à Interlagos. Que c'est l'un des départs les plus excitants de l'année, avec le S de Senna, la descente où généralement c'est assez assez sportif hein, les départs. Ouais. Quoique la pluie qui s'annonce au moment du départ laisse quand même augurer un départ plutôt calme. On sait que les pilotes vont pas nécessairement aller se taper dedans.
Bah, on a vu la safety car faire le tour du circuit, on s'est même demandé si le départ serait pas sous safety car. Hein.
Voilà. Ça aurait été dommage quand même.
Ouais.
À signaler que bien que qualifié 13e, parce que là j'ai lu les petites lignes qui est en bas de la page.
Ouais.
Robert Kubica s'était lancé de la grille, s'était lancé des stands.
Oui, il était sur la grille et après le.
Voilà.
Le tour de chauffe, il est passé par les stands.
Voilà.
Alors je sais pas, est-ce que c'est peut-être pour changer les pneus?
Mais non, parce que de toute façon ils avaient le droit de changer les pneus. Ils ont reçu l'autorisation de la course. En fait, dans la course, quand ils déclarent. Il y a changement des conditions de piste. À partir de ce moment-là, on peut changer les pneus sur la grille de départ. On peut, je crois, changer les réglages. Et on peut aussi, tout au long de la course, oublier la règle d'alternance.
Ouais. Non, mais justement, est-ce qu'ils n'auraient pas mis, par exemple, sur sa BM des pneus extrêmes? Et puis voyant l'état de la piste, par exemple, passer par les stands pour mettre des pneus pluie.
Peut-être, ouais.
Parce que c'est vrai que c'est bizarre de l'avoir vu comme ça, rentrer dans les stands et partir des stands.
Ouais, surtout qu'il était du bon côté de la piste et puis que c'est un bon démarreur quand même. Donc,
Oui.
Donc une grille de départ assez excitante quand même.
Attends, t'as pas parlé du deuxième?
Ouais, non mais Trulli, j'ai dit vite fait ça. Bon d'accord.
Oui, c'est Trulli.
Deuxième, Yarno Trulli.
C'est quand même assez rare pour le...
Mais c'est Yarno Trulli. Yarno Trulli, il va être deuxième pendant un tour.
Oui.
Ouais,
ouais, mais en même temps, s'il y a un bon côté, c'est pour Ferrari. Parce que ça fait toujours une voiture de plus entre Massa et Hamilton.
Moi, je sais que pendant la course, quand j'ai vu Raikkonen fondre sur Trulli, j'arrêtais pas d'hurler à mon écran, mais ne le double pas, ne le double pas. Parce qu'on peut légitimement penser que si Raikkonen le double, Hamilton
oui,
va
après,
le louper.
Voilà. Oui.
Alors, je disais Raikkonen, laisse-le devant, ralentis. Bon, c'est vrai que demander à Raikkonen de ralentir...
Même pour son coéquipier, il a du mal, alors.
Ouais, mais là, c'était spécifique, hein. C'est son coéquipier qui avait du mal à accélérer.
Ouais.
Donc, en pole position, Felipe Massa.
Ouais.
La troisième fois qu'on la troisième fois qu'on active.
Oui, il est vraiment chez lui. Il a deux circuits, Massa, c'est la Turquie et le Brésil.
Et puis là, c'est vrai qu'il claque un temps, il met 5 dixièmes à
Annie. Ah oui, c'est...
Là, il n'y a rien à dire. Une pole position réalisée à une moyenne de 214,354 km par heure.
C'est ce que je disais, à peu près.
La 15e pole position de Felipe Massa.
Ouais.
Soit la 203e de Ferrari, et donc, par conséquent, la 204e pole position pour un moteur Ferrari.
Voilà.
C'est dingue, maintenant, quand Ferrari fait
des... Ils sont saoulants, Toro Rosso, hein.
Ah, mais là, ça nous rajoute 2 secondes. Ah, ça m'énerve. En même temps, ça valait le coup, quand même.
Ouais.
Non, parce que quand on regarde avant le départ du Brésil, quelle belle saison on a eue.
Oui, vraiment.
On a 7 vainqueurs différents.
Dont 3.
Dont 4 nouveaux. 3 nouveaux. Un attendu. Un inattendu, comment ça s'appelle, Vettel.
Ouais.
Un qu'on espérait quand même bien voir gagner d'ici la fin de saison, Alonso.
Ouais.
Un qui nous a fait une belle histoire, c'est Kubica.
Ça.
Et puis le gros moulu de l'année.
Ah oui, le gros moulu de l'année, c'est Kovalainen.
Kovalainen. Mais...
un moteur qui pète, une victoire qui tombe.
Voilà, surtout que, en plus, c'est un peu une belle histoire parce que c'est vrai que. Moi, ce qui m'a énervé ce week-end, c'est qu'on n'a pas arrêté de dire « Oui, McLaren n'a pas fait d'erreur de la saison, etc. » Non, attention. McLaren n'a pas fait d'erreur sur la voiture de Lewis.
Oui.
Parce que la voiture de Kovalainen, elle n'a pas été épargnée. Le nombre de fois où il s'est arrêté cette saison, je ne sais pas combien il a fait d'abandon cette année, mais il y en a au moins 4 ou 5. Donc là, effectivement, McLaren a fait des erreurs parce que je pense que McLaren, avec la voiture qu'ils avaient, pouvait largement jouer le titre constructeur.
Oui.
Voilà. Mais bon, avec Desi, on refait le monde.
Oui.
Ils sont champions.
Oui.
Justement, puisqu'on parle de champions, passons à la course.
La course, oui.
Alors, petite nouveauté.
Oui, puis puisque... c'est aussi parce qu'on est au de la dernière course, donc
voilà. Puisque on a eu un gros débat. Faut-il faire un top parce que le top flop, faut le faire en fonction de quoi? En fonction de la course, en fonction du championnat. Par exemple, voilà. Massa.
Bah, Massa.
on le met top sur la course.
Oui.
Mais sur le championnat, c'est pas top.
C'est flop.
C'est flop. Donc, on a décidé de faire un truc qui se fait partout.
Ouais.
Comme le top flop, mais partout. Le team par team.
Tu as exactement marqué sur le conducteur le team by team.
Ah ouais, non mais je voulais
comme
pas.
Comme quoi la F1 est un monde anglophone.
Je voulais pas me la péter avec mon anglais que je parle parfaitement. Hein, tout le monde le sait. I speak English very well. Oh, le mec il se la pète. Oui, nous sommes de la région de Franck Dubosc. Oui. Eh, nous l'assumons! Hein? Donc, passons à ce team by team. En commençant par Force India. Voilà. Ensuite.
Voilà.
Non, Force India.
Sutil, y a rien. On l'a pas vu de la course.
Bah ouais. En même temps, c'est Sutil sur Force India.
Ouais. Et puis. Alors, Physique est là quand même. Ils ont eu l'espoir. Chez Force India.
De marquer un, oui.
Pendant quelques tours de marquer, voilà.
Parce que l'objectif de Force India cette saison, c'était de marquer un point.
Ouais. Hein,
histoire de ne pas rester au même niveau que Super Aguri. Vous savez, cette équipe qui avait des voitures toutes blanches, rouges et noires, hein, et qu'on a plus vu, hein, au bout de 3 courses cette saison. Eh ben voilà, ils voulaient pas être au même niveau que Super Aguri. Il fallait qu'ils marquent un point.
Eh ben ils ont pas réussi.
Eh ben ils ont pas réussi. Ouais. Ils ont été, je sais plus combien.
Il a été 5e.
Voilà, il a été 5e.
Au mieux. Devant Hamilton, d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs, il a donné un peu de difficulté à Hamilton. Et puis, il a perdu 2 places d'un coup.
Ouais, puis il a fini vraiment en toute fin de classement.
Ben voilà, il nous a fait une course à la Physique et là. Physique et là qui, encore une fois, apparemment, ne sait pas comment il faut se faire doubler. Ah non, mais c'est... À un moment donné, ce mec-là va falloir qu'on le reçoive à la FIA pour lui faire comprendre... Mais quand on lui montre un drapeau bleu, c'est pas pour lui rappeler l'époque où il était chez Renault. Hein? C'est parce qu'il faut qu'il laisse passer la voiture qui est derrière lui. Franchement, ça devient pénible avec Fisichella. C'était déjà le cas en Chine, c'est encore le cas au Brésil.
Ouais.
Merde. Ah, je suis énervé, moi, super. Donc, ça, c'était pour Force India.
Force India.
Vous avez vu, on commence fort.
Ouais.
On vous garde,
et c'était que Force India.
On vous garde le meilleur pour la fin. Ensuite, après Force India, nous avons...
Honda.
Honda. Voilà.
Bon, bah... on passe au suivant.
Ah non, faut quand même qu'on dise quelque chose sur Honda.
Honda, bah, Button, il a rien fait.
Non, et Button, et moi j'ai adoré l'image de Button. Button qui a abandonné très tôt dans la course. Hein, je crois que je regarde, il a abandonné.
Bah non.
Oh, oui, il a abandonné. Je dis,
Mais non, il a pas abandonné.
Mais oui, il a abandonné, j'ai vu sur le bord de la piste. Ah non, c'était en qualif.
Voilà. C'était en qualif. Ouais.
En qualif, c'était drôle, il avait abandonné. Et il est resté
pendant oui, toute la qualif. Après avoir fait son temps.
En train de regarder. Ouais, il a abandonné dans le tour de sortie après.
Je sais pas. Problème moteur, panne d'essence, je sais pas, mais...
Ah non, il a fini qu'à un tour, c'est bien.
Oui, non.
Oh, il est long.
Quand même.
Devant Barrichello. Oh, il est long, ouais.
Waouh.
Barrichello qui vivait son dernier Grand Prix de la saison.
Oui. Hein.
Mais nous aventurons pas.
Tu te rends compte, Coulthard, comme il a annoncé, il a eu droit aux honneurs et tout ça, on a parlé de lui, on l'a rendu hommage. Parce que lui, il a prévu son truc. Alors que Barrichello, si ça se... Alors que, en plus, finir chez lui,
mais ouais.
C'est quand même bien.
Mais je pense...
Eh ben non, il va se faire virer comme un malpropre.
Mais je pense, en fait, moi j'avais lu dans F1 Racing l'interview de Barrichello, où il parlait notamment de sa retraite, et je pense que c'est surtout quelqu'un qui n'a pas envie d'y penser, qui n'a pas envie non plus qu'on en parle... Voilà, il a envie de partir discrètement, je pense, et puis ouais. D'entretenir l'espoir autant qu'il peut. Je pense que ça l'amuse plus. Je pense que vraiment, quand il voudra partir de la F1, bah, il le fera. Il fera une soirée avec ses potes. Et puis voilà. Moi, c'est. Je pense qu'on le verra pas l'année prochaine. Faut être honnête. Ou alors, franchement, c'est que Senna est pas très bon. Parce qu'en plus, il est concurrencé par un autre Brésilien.
Oui,
alors,
autant, et pas n'importe lequel.
Là, c'est Rubinho, c'est l'héritier de Senna. Hein. Mais autant, là, il est quand même concurrencé par l'héritier de Senna.
Senna.
C'est son neveu.
C'est le fils de Dieu, même si c'est pas son fils, c'est son
voilà,
neveu.
Donc,
c'est comme ça que je le décris.
C'est, ouais, parce qu'on a appris que Senna, il allait...
Il va faire des tests pour Honda.
Pour Honda.
Ça, c'est sûr. On sait aussi qu'il a des contacts avec Toro Rosso.
Ouais, qui est prêt à lui proposer un contrat de 14 millions.
Waouh! Voilà.
Alors, Toro Rosso, qui a du mal à payer les 2 millions de Bourdais, il va claquer 14 millions. Comme ça. Alors que c'est un pilote maison. C'est un pilote Red Bull.
Oui.
Donc.
Mais on sait pas encore si c'est pour un poste de titulaire.
14 millions pour un poste de remplaçant, c'est pas terrible. Hein.
Ah, chez Toro Rosso.
Mais
chez Honda, on sait
chez
pas.
Chez Honda, on sait pas.
C'est peut-être un troisième pilote. Ouais. Et dans ces cas-là, peut-être que Barrichello ferait une dernière l'an prochain.
Ah non. Ils vont aller chercher Mickaël ou un truc dans le genre. Tu sais que j'ai lu, là, j'ai reçu hier le F1 Racing du mois de... Le dernier. C'est...
Oui, j'ai acheté.
Et il y avait littéralement Mickaël Schumacher. Et dedans, Mickaël Schumacher,
long interview.
Il dit quand même... qu'il a eu des possibilités de revenir en Formule 1 depuis qu'il est parti.
Bah, c'est-à-dire qu'il a quand même tourné de temps en temps et il a pas encore perdu.
Oui, non, mais je me demande s'il n'y a pas eu des contacts de Ross Brawn.
Et Schumi, même s'il perdait 10% de son talent, il y aurait déjà beaucoup, il y aurait encore beaucoup d'écuries qui en voudraient.
Donc, oui, voilà, ça c'est pour Honda. Bilan de la saison pour Honda. Vivement 2009.
Bah ouais, il y a pas vraiment eu d'effet Ross Brawn.
Mais moi ça a été la déception quoi. Ross Brawn.
Même s'ils ont fait, c'est pas Barrichello qui a fait un podium.
Il a fait un podium à Silverstone.
Voilà.
Il sort quand même avec 14 points. Mais c'est vrai que moi j'étais surtout déçu, c'est effectivement de l'effet Ross Brawn. On parle beaucoup de l'effet Ross Brawn. C'est vrai que faut lui laisser le temps sur la voiture. On verra vraiment.
Bon, c'est vrai que la voiture, il n'y a pas touché, donc ça, on pouvait pas.
Mais c'est vrai que. Ross Brawn, c'est aussi un stratège, c'est aussi l'une des têtes pensantes de Ferrari. À une époque où Ferrari, c'était. Voilà, il y avait quasiment zéro erreur, il y avait. voilà, il y avait que des erreurs volontaires chez Ferrari.
Ouais.
Et on l'a vu, on a vu plusieurs fois cette saison, Honda faire des erreurs bêtes, se prendre des pénalités au stand assez stupidement. Moi, c'est un peu sur ça que m'a déçu Honda cette année. J'attendais pas grand chose de l'écurie, je savais qu'ils étaient concentrés sur 2009. Mais c'est sur cette efficacité, pas mal de pénalités. Là encore, ils se sont fait pénaliser pour une broutille au Brésil. En Australie, Barrichello prend, alors qu'il peut faire une performance, je crois qu'il est 6e ou 7e, il peut marquer des points. Il doit passer au stand parce que il est rentré trop vite au stand ou on l'a relâché trop tôt. Enfin voilà, moi c'est un peu la déception, c'est du point de vue purement management de l'équipe et des petites erreurs qui n'auraient pas dû être faites dans une équipe Rose Brand.
Or c'est là justement qu'on l'attendait.
Voilà. Alors après Honda, nous avons Williams.
Bah Williams, déjà ils étaient mal qualifiés, donc ça aidait pas. On les a pas vraiment vus de la course. Hein.
Bah là, Rosberg finit, Nakajima abandonne. Non, même pas, je veux tout le temps voir abandonner Nakajima. Ouais. Nakajima a été...
Fini
17ème. Nakajima a été impliqué dans l'incident au départ.
Oui, et il a eu beaucoup de chance parce qu'il n'est pas passé très loin du rail.
Ouais, il a dû rentrer d'ailleurs, je crois, pour changer je sais plus quoi. Bon, bah, une course à la Nakajima. Et Rosberg a fait 12ème.
Ouais, il s'en sort un peu mieux, au talent.
Voilà. Mais bon, c'est pas ça non plus. Hein. Chez Williams, ils ont une ambition pour 2009, mais on se demande où ils vont la chercher, quoi.
Comme souvent, c'est-à-dire que la voiture commence la saison plutôt pas trop mal, et puis bah forcément face aux autres écuries, le développement, ça devient de plus en plus difficile, quoi, ouais. Au fil de la saison.
Mais c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur de voir Williams comme ça, parce que on sent aussi que Williams c'est une grande équipe, il y a énormément de potentiel, mais en même temps, moi je les sens pas capables de remonter la pente, quoi. Même si Sam Michael y croit à fond pour 2009. Bref. Ouais. De toute façon, en 2009, tout le monde y croit.
Oui, hein? Tout le monde y croit.
Ferrari sera devant, McLaren sera devant.
2009 est une saison merveilleuse où 8 écuries joueront le titre et où 14 pilotes voudront être champions du monde.
Il y a 10 écuries qui joueront le titre. Parce que vous oubliez que Force India va récupérer des châssis McLaren.
C'est vrai en plus.
Châssis plus moteur. Que Honda, ça fait des années que Honda, ils font des voitures carrées. Que cette année, c'est des voitures carrées qu'il va y avoir. Donc, il y aura forcément Honda. Que Toyota.
Tu sais que Williams, on dit que les voitures de l'an prochain ressembleront aux voitures des années 94.
Ouais.
Les années où Williams était au top.
Voilà.
Et comme par hasard, les années où Adrian Newey était au top.
Voilà.
Red Bull. Hein. Bah là, hein.
Red Bull.
Puis Toyota, ils vont progresser parce qu'ils marchent plutôt bien cette année, donc ils vont s'améliorer.
Red Bull qui a pour
Et puis Renault, là, on l'a vu, hein, c'est une top team. Hein.
Red Bull qui a pour consigne de gagner l'année prochaine. Ils ont été clairs. En 2009, il faut que Red Bull gagne des courses. Bon, ça.
Ah bah ils ont Vettel.
Voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc théoriquement, l'année prochaine, on a une énorme nasse de crabe.
Voilà.
Avec 10 écuries qui se livrent une guerre. On aura sur 17 courses.
Avec un champion du monde avec 44 points. Parce que comme justement ils seront tous au top.
Sur 17 courses, on aura 19 vainqueurs différents. D'accord, parce qu'on aura pénalisé entre-temps Hamilton, mais on lui aura laissé de la victoire de la course. Hein.
Voilà.
Et on aura Giancarlo Fisichella qui est la champion du monde.
Et malgré tout, au final, voilà, pour un point.
Non, à égalité avec trois autres pilotes.
Un demi-point.
À égalité avec trois autres pilotes. Mais qu'on aura départagé à la 11e place.
Voilà.
Voilà. Voilà la saison.
Ça, c'est le rêve. Là, ça, c'est le rêve. Et la réalité, ça sera Ferrari et McLaren.
Voilà.
Point.
Renault qui va essayer de rattraper le wagon. BMW qui va essayer de rattraper le wagon.
Voilà.
Et puis, Force India à la fin.
Ouais.
En lutte avec Toro Rosso. Le pire, c'est que je me suis en train de me dire pourquoi est-ce qu'on veut tellement que Bourdais reste en F1. L'année prochaine, Force India, ils auront des châssis McLaren. Donc,
oui,
théoriquement, la dernière équipe du plateau, ce sera Toro Rosso. Non, on va avoir le pauvre Bourdais qui va s'échiner à être dernier. Donc, non, faut qu'il aille ailleurs, qu'il retourne en IndyCar. Je vais faire des copains.
Ouais. Encore une fois, eh ben, il a pas eu de chance. Là, c'est pour la 17ème fois de la saison.
Ah, là, c'est pas de la chance, là, franchement. Moi, j'ai cru que j'allais claquer Trulli.
Ah, là, ouais.
Mais j'aurais vraiment dépassé comme ça, mais c'est n'importe quoi. Surtout sous. C'est n'importe quoi.
Non, mais puisqu'il était pas trop mal, quoi. Il était.
Il était 8ème, il était bien. En plus, il avait une stratégie où il était lourd.
Et ça a vraiment bousillé sa course.
Et voilà, parce que Trulli, impatient, a forcé le passage. Que je suis désolé, mais moi, sur ce que j'ai pu voir de la vidéo, il donne quand même un volant, il le tasse bien. Lui-même prend le virage un peu à l'extérieur. Il pousse Bourdet dehors. À ce moment-là, ça ruine la course de Bourdet, quoi. Et je pense que Bourdet, il en a marre de se faire foutre dehors par Trulli. Là, les Italiens, franchement, je trouve que les Italiens sont limite physiques et là, qui met trois quarts d'heure à se laisser déplacer par un mec qui a un tour. Ouais. Et Trulli qui fout dehors deux fois de suite, qui fout dehors Bourdet. À un moment donné, il faut que Trulli il arrête. Voilà. Merde. Allez, non, ça se voit que Obama il est président, je me lâche. Ouais. Glock.
Il y a eu Vettel.
Oui, oui.
Vettel qui, l'espace d'un instant, a failli être le climax de la saison.
Mais il y avait un petit duel entre Vettel et Glock.
Ouais.
Voilà, hein, pour la célébrité de la dernière course. Le héros. Vettel était le meilleur allié de Massa, et on sait que Glock est devenu le meilleur allié de Hamilton.
Oui, à deux virages de la fin quand même, hein, c'est devenu son allié.
Alors, moi...
C'était quand même incroyable, parce qu'il était derrière Vettel, il a commencé à pleuvoir, et on l'a vu remonter... Alors pourtant, Hamilton, sous la pluie, on connaît son talent.
Alors, la version officielle de McLaren, ils disent ils savaient qu'ils allaient devoir dépasser Glock.
C'est peut-être pas faux.
Alors, c'est peut-être pas faux.
De se focaliser sur Glock plus que sur Vettel.
Mais quand même,
pas risquer avec Vettel.
On n'a pas senti une seule seconde que Hamilton était en mesure de remonter sur Vettel.
Non.
Donc, il se laisse quand même dépasser bien. Correct,
oui,
mais quand même,
éviter,
il s'est bien dépassé. Bon, voilà, alors qu'on est justement à la seconde pour pouvoir récupérer Glock, qui est quand même loin devant, ralentir pour se laisser dépasser par Vettel, je suis pas sûr. Je pense que voilà, Vettel était plus fort, qu'il n'a pas non plus fait de difficulté pour se laisser dépasser Hamilton, mais quand même, Vettel était plus fort sur la fin de course que Hamilton.
Et c'est vrai que quand Vettel a dépassé Hamilton, il y a eu une sorte d'hallucination collective. De transe.
Mais moi j'avouerais que j'ai vécu un moment très particulier. Je me suis mis à bondir, à hurler oui 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 oui. Et il paraît, d'après mes proches, que je suis devenu tout blanc, que je me suis mis à trembler, parce que Massa était virtuellement champion du monde. Voilà. Alors faut quand même rappeler que Massa, moi j'y ai pas cru depuis un bail. Et voilà, comme quoi, quand on est fan, quand on est ferrariste, et ben, même quand c'est Massa, et ben on vibre.
Mais c'était fou. Ouais, l'espace de deux tours, on est tous... c'était tellement incroyable. Il n'y a même pas de mots, je crois, pour décrire.
En plus, c'est ça qui est terrible, c'est que quand en plus on voit la résolution à la fin avec Glock, qui se laisse dépasser. Quand on regarde ces vidéos après, on la voit la Toyota.
Oui, c'est ça qui est fou, c'est que ouais, quand on voit.
Alors
après,
qu'en fait,
vidéo,
dans le feu de l'action, on la voit pas une seule seconde.
On la voit pas du tout.
Moi, j'étais étonné en regardant la vidéo de me dire, mais c'est bizarre, il fait drôlement clair. Moi, je me souvenais d'un espèce de truc apocalyptique où on voyait à peine les voitures. Voilà, et pour moi, je me disais, ouais, de toute façon, on pouvait pas la voir, la Toyota. Et je vois la vidéo.
En fait, on la voit très bien.
On la voit très bien, la Toyota.
On voit très bien la voiture se faire doubler. Et non, là, sur le coup, dans l'instant, on était tous dans un état second et il a fallu qu'on attende l'affichage.
Moi, c'est quand j'ai vu l'affichage.
Ce Hamilton 5. Que là, tout le monde, et d'ailleurs, même dans le stand Ferrari, ils s'en sont rendus compte à ce moment-là qu'on avait compris que non, Hamilton était champion du monde.
Apparemment, ils étaient déjà, c'est ce qu'a déclaré aujourd'hui ou hier Massa, ils étaient déjà, alors qu'Hamilton était toujours en piste pour le titre, ils étaient déjà en train d'expliquer à Massa que c'était pas possible, que Glock s'était fait dépasser et que c'était terminé.
Ouais.
Après, quand on entend McLaren dire, je pense qu'on y reviendra, mais quand on entend McLaren dire, ouais, on savait, notre objectif c'était Glock, c'est quand même risqué.
Bah, surtout qu'ils l'ont doublé qu'à deux, qu'à deux virages de la fin.
Voilà. Donc, j'y pense, on a oublié Red Bull.
Bah, on a qu'à en parler maintenant de Red Bull.
On a quand même mis Toro Rosso après, avant Red Bull, alors que Toro Rosso aurait dû venir après.
C'est vrai, tu as raison.
Toro Rosso a fini la saison avec 10 points d'avance.
Ouais.
Sur l'écurie mère, 39.
Bravo. Parce que là.
Et puis bah c'est les 10 points de la victoire de Pépère. Hein.
Ouais, voilà.
Bon, c'est vrai que c'est 10 points d'avance, c'est 35 points de Vettel et 4 points de Bourdais.
Ouais, c'est vrai.
Mais quand même. Donc pour parler de Red Bull,
alors Weber, on l'a pas vu.
Voilà.
Bien qu'il ait fini la course. Et Coulthard, on l'a pas vu. Et ça, c'était quand même vraiment triste.
Ah ouais, ça, c'était très dur. Moi, j'ai trouvé ça.
C'est, ouais.
Moi, je dois, j'aurais presque voulu qu'il prenne la voiture de réserve. Ou qu'on demande à Weber qu'il s'arrête. Pour lui dire, allez, file ta
voiture
à Coulthard, quoi.
Voilà.
Même Barrichello, quand Barrichello s'arrête, dire, vas-y, je te prends ma voiture. Elle est blanche, tu verras rien.
C'est vrai qu'en plus, il avait cette voiture blanche. Pour une œuvre caritative, en plus. Vous imaginez, il a fallu l'accord de toutes les écuries. Parce que normalement, les deux voitures d'une équipe doivent avoir la même livrée. Il a fallu l'accord de toutes les écuries pour exceptionnellement avoir cette voiture.
Mais en plus, je crois qu'il se fait, il se fait sortir.
Il se fait sortir, bah, l'incident avec Nakajima et tout ça, quoi, au premier virage.
Alors que lui, il est pour rien, quoi. Il se fait balancer dans le mur. C'était triste, quoi, parce que c'est.
C'était triste, ouais.
Il faut quand même rappeler l'histoire. Il est arrivé en Formule 1, il a succédé à Senna.
Oui, il y a une certaine ironie de l'histoire.
Il a reçu un... Quand il a été recruté par Williams, l'annonce a été faite le dimanche 1er mai 1994.
Ouais.
Il a reçu à 10h du matin un fax de Senna qui lui disait « Bienvenue dans l'équipe ». Senna se tue 2h30 après et c'est Coulthard qui lui succède.
Ouais. Il a commencé la F1 de la pire des façons. De la... ouais. On peut pas faire pire, quoi.
Et puis il a fait une bonne saison chez McLaren. Il avait fait une bonne carrière chez McLaren.
Oui, bah c'est le top de sa carrière chez McLaren. Oui, il a secondé Mika Hakkinen dans ses titres.
Puis il a fait pour tout le monde, il a fait une reconversion chez Red Bull qui était une belle reconversion.
Ah oui, parce qu'il devait être là quasiment pour former les pilotes et il les a mis au tapis quasiment.
Ouais. Bon, là, ça, cette saison, c'est la saison de trop.
C'est quelqu'un qui aurait été dans son élément dans la F1 des années 60.
Peut-être. Donc, justement, passons à l'équipe qui vient après Toro Rosso dans le classement. Je sais plus laquelle c'est.
C'est Toyota.
Toyota, oui. Toyota qui fait un bon week-end.
Bah oui.
Que dire des pilotes On a pas mal parlé déjà de Glock aux précédentes émissions.
Oui, bah voilà.
Que c'était une bonne surprise.
Et disons-le, non, il n'y a pas eu de plan Glock, McLaren, tout ce que vous voulez.
Oh, les trucs qui m'énervent en ce moment, non mais.
Oui, il a perdu 6 secondes dans le dernier tour. Pourquoi il a perdu 6 secondes dans le dernier tour? Parce que Glock a fait le pari de ne pas changer ses pneus. Donc, il pleuvait, il était toujours en pneus secs, des pneus qui avaient 32 tours.
Oui, en plus.
Voilà. Il y avait pas.
T'as un truc, moi. Les gens sont, je vais peut-être en choquer certains, mais être stupide au point de penser que Glock va laisser passer Hamilton, alors que dans l'affaire, il va perdre pas une place, mais il va en perdre deux parce que il y a Vettel entre les deux, et ouais. Que, en ralentissant, et puis comme il a des pneus slick, etc., enfin des pneus pour piste sèche, il va sans doute perdre plus, il perd des gros points, mais c'est n'importe quoi, c'est, si vous pensez ça, vous êtes bête. Vous n'avez rien compris. Alors,
il a quand même estimé que, il avait fait une bonne course, parce qu'il pense chez Toyota que s'il avait mis les pneus pluie, il les aurait finis que 7e.
Ben voilà.
Donc il fait 6, donc c'est plutôt pas mal. Bon, Troulier, comme on l'a dit, après le premier ravitaillement, il était vers la 7e, 8e place et il finit 8e.
Eh ben, tu ne mérites pas ta 8e place.
À part cet incident avec Bourdais. Voilà.
Méchant Troulier. Au championnat quand même Toyota fait une très belle saison, 56 points.
Alors ils sont 5e, c'est pas leur meilleure position, je crois que c'était en 2004.
4e, ouais.
quatrième. Malgré tout, c'est une super bonne saison pour Toyota. Ce que je dis souvent, c'est que cette année, ils sont repartis dans le bon sens. Hein. C'est-à-dire que oui, la Toyota cette année, c'est une vraie voiture, c'est pas une copie d'une autre voiture, et c'est une voiture qui a montré qu'elle avait des qualités.
C'est une copie de plusieurs voitures.
Oui, on pourrait dire ça. C'est la tradition Toyota. Ils ont encore besoin de créer un style. Le duo de pilotes s'est montré plutôt pas mal. Trulli, on savait qu'il était rapide en qualif. Glock, moi, j'ai trouvé que c'était une bonne surprise.
Glock, ouais, c'est une... Faut quand même se rappeler, Glock, quand il était champion en GP2, c'était un peu un peu ce qu'est Pantano cette année. Le pauvre Pantano, personne veut de lui. Le mec, il est champion de GP2, personne veut de lui. On s'intéresse au mec qui était 4e ou 5e, mais pas lui. Glock, c'est un peu pareil, quoi. On se moquait de lui parce que c'était un vétéran qui avait déjà eu sa chance et qui avait rien à faire en F1. Et puis, il y a eu un déclic, je pense, à son accident en Allemagne. Depuis, il fait une magnifique fin de saison, moi, je trouve... moi, je trouve qu'il a mérité sa place en F1 comparé à Trulli, par exemple. Trulli qui, pour moi, maintenant pourrait partir, ça me gênerait pas, puisqu'il m'énerve. Mais
ils en ont sans doute besoin en plus, hein, parce que s'ils veulent progresser, maintenant, c'est essayer de se placer, essayer de gagner des courses. Et c'est vrai que est-ce qu'ils peuvent gagner des courses avec ce dos de pilote? Je suis pas sûr.
Bah ouais, pour le moment de marcher.
Peut-être dans des circonstances particulières, bien évidemment.
Et puis en plus c'est un pilote, Glock, c'est un pilote avec Trulli qui peut valoriser le potentiel de la voiture, qui peut valoriser la voiture et qui peut donner effectivement un élément de comparaison pour un grand pilote genre Alonso, Kubica, Raikkonen qui pourrait venir.
Oui, c'est ce qui manque à Toyota depuis 10 ans en fait, c'est cette capacité à attirer à elle un top pilote.
Ouais. On a souvent parlé de Toyota, notamment. En ce qui concernait Kimi Raikkonen, en ce qui a concerné il n'y a pas longtemps Alonso, mais généralement c'est pas au niveau des performances qu'on en parle, mais c'est plutôt au niveau du chèque. Et là c'est vrai qu'il commence à avoir un peu de performance, il commence à montrer que en travaillant ça vient et on peut espérer que il y aura un grand pilote qui ira là-bas.
Qui travaillent mieux sur leur filière pour essayer de détecter peut-être une perle qui serait passée entre les mailles du filet.
Kobayashi, qui est en GP2, fait des trucs pas trop mal. Donc après, on peut très bien imaginer un pilote japonais chez Toyota, mais c'est vrai qu'il leur faut quand même un grand pilote, ils ont besoin d'un grand pilote. Surtout qu'il y a des rumeurs qui commencent à courir comme quoi, avec la crise, ils pourraient pas suivre plusieurs programmes en même temps et que donc ils seraient tentés, par exemple, de privilégier le retour de Toyota en endurance face à Peugeot et peut-être un petit peu se délester du programme
et le reverser vers Williams peut-être,
voilà,
en se limitant au rôle de motoriste.
Voilà. Bon, c'est vrai qu'on imagine quand même mal Toyota avoir investi pendant 10 ans pour juste faire ça, quoi, une place de 4e et de 5e. C'est pas... Alors passons maintenant aux choses sérieuses.
Ah oui.
Pensons maintenant à la 4e place.
À Renault. Renault.
Et à ce mystère. Vous avez le mystère de la chambre jaune. Et il y a le mystère de l'écurie jaune. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour Piquet? Piquet, qui non content de sortir de la route comme ça, maintenant sort de la route de façon totalement mystérieuse.
Et pas tout seul. Parce qu'au moins il avait un mérite, c'est que souvent il sortait tout seul.
Voilà, mais là je sais même pas comment il est sorti parce qu'apparemment il est même pas impliqué dans l'incident. Il a rien à foutre. En F1, ce mec, c'est impossible. Je suis désolé, là je suis stressé, mais non. Non, franchement, quoi. Moi, pour une écurie qui l'année prochaine veut se battre pour le titre, quitte à la limite. Quitte à se battre pour le titre en disant voilà, on se bat pour le titre, mais on se bat pour le titre pilote avec Alonso. Au moins, étant donné qu'on sait très bien que Alonso risque de partir chez Ferrari, parce que c'est une potentialité en 2010 ou 2011 qui se barre chez Ferrari, commencer déjà à construire l'avenir.
Oui.
Et là, on a l'impression qu'ils ne voyaient pas plus loin que le bout de leur nez. Je suis désolé, mais Piquet, il a peut-être du talent, mais pas pour être en Formule 1, pas pour incarner l'avenir de Renault.
fallait prendre un mec comme Grosjean, un mec comme Di Grassi, leur donner leur chance, ouais. Même à faire ce qu'avait fait il y a quelques années Toro Rosso, les mettre une moitié de saison l'un, une moitié de saison l'autre.
Pourquoi pas?
Et dire voilà, vous bataillez pour le baquet pour 2010. Là, franchement, moi, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi?
Voilà, pourquoi? Bon,
heureusement, Renault garde Alonso.
Qui a encore fait une bonne course.
Parce qu'il faut quand même rappeler, dans la course, il y avait Massa, il y avait Vettel et il y avait Alonso derrière, et qui a fait sa course en fonction de Vettel et pas en fonction de Massa. Je pense que c'était plus intelligent. Voilà, il savait très bien qu'il y avait que la deuxième place à jouer. Je pense que Alonso ne voulait pas non plus. Je vais pas dire qu'il voulait pas gagner. Hein. Il aurait eu la possibilité de gagner, il aurait gagné. Mais je pense que c'est pas non plus la victoire qu'il cherchait le plus pendant la course. Faire un podium, une deuxième place, ça lui suffit amplement, je pense.
C'est vraiment impressionnant. Là. Avec la Toro Rosso, la Renault, c'est vraiment la voiture qui a le plus progressé. Hein.
Ouais,
parce que en début de saison...
Je mettrais quand même la Toro Rosso devant.
Ouais.
Mais c'est vrai que... Là, on sent l'effet Alonso, je pense. Renault sans Alonso, c'est pas ça, quoi. Et c'est ce qu'on attendait du retour d'Alonso, c'est que ça remette en marche la voiture. Ça a été un peu plus poussif que ce que moi, je m'attendais.
J'attends la moitié.
Voilà. Mais apparemment, en plus, Alonso, sur les dernières courses, c'est lui qui a, un peu à l'image de ce qu'avait fait Button en 2006, c'est lui qui marque le plus de points.
Oui.
Donc voilà, donc il a su profiter de cette fin de saison. Pour au final re-signer chez Renault.
Mais qui sait, peut-être que l'an prochain...
Non, ce sera Kimi l'année prochaine.
Ah, ça peut être que lui, année impair.
Voilà. Puis Alonso, il a déjà eu ses deux titres, je veux pas savoir.
Voilà.
Ou alors c'est Hamilton, alors là on s'est grillé par Hamilton. Donc,
passe au troisième du championnat.
On n'a vraiment rien à dire sur les équipes. C'est effroyable. Oui, le troisième du championnat qui est BMW.
BMW.
Voilà, l'écurie blanche qui est devenue transparente.
Oh, c'est joli ça. Ils ont marqué 0 points.
Je me demande si c'est pas une première cette saison pour eux.
Et Kubica et Vettel ont fini à un tour.
Et ouais, c'est la première
fois. Pour leur régularité.
En Australie, ils ont marqué 8 points, 11 points en Malaisie, 11 points à Bahreïn, 5 points en Espagne, 9 en Turquie, 8 à Monaco, 18 au Canada, 4 en France, 8 en Grande-Bretagne, 7 points Deutschland, donc en Allemagne, 1 point en Hongrie, même en Hongrie, ils ont marqué 1 point. En Europe, 6 points, 11 points en Belgique, 10 en Italie, 3 à Singapour, 8 au Japon, 7 en Chine, et là, rien.
Alors, Etfeld, il a été très stable. Et alors, Kubica, il a vraiment été en faute. Bah, justement, à cause de son départ des stands, il a été en fond de peloton quasiment tout le temps. Il n'y a que l'arrivée de la pluie en fin de course qui lui a fait gagner des places. Il a changé ses pneus très tôt.
Ouais.
C'est triste pour BM parce que, franchement, s'ils avaient continué à développer la voiture, on aurait peut-être eu quelques surprises.
C'est le reproche que je ferais à BM, c'est que BM, voilà, ils ont établi leur calendrier sur 10 ans, on va dire, ou sur 5 ans. Voilà. Et ils avaient prévu que cette année, ils visaient la victoire et que l'année prochaine, ils visaient le championnat. Là, ils avaient l'occasion, je dirais pas de gagner le championnat, mais au moins de se battre, de prendre de l'expérience dans la lutte pour le championnat.
Et puis qui sait ?
Là,
c'est jamais, un hold-up, ça arrive toujours.
Ils ont décidé, c'est super tôt, je crois que c'est après le Canada, quoi. Une ou deux courses à peine après le Canada, ils ont décidé d'arrêter le développement de la F1-08.
Oui.
C'est n'importe quoi. Tu n'arrêtes pas le développement d'une voiture qui est troisième du championnat en plein milieu de la saison. C'est du défaitisme. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que on voit que Renault est sur une pente ascendante, que on voit que BMW ne sont pas sur une pente descendante, mais ils sont sur une pente stagnante. Et j'ai peur qu'il y ait cette espèce de dynamique positive en faveur de Renault et cette dynamique négative en faveur de BMW qui donne un mauvais mélange pour l'année prochaine.
Puis ça pourrait leur coûter cher, hein, parce qu'on voit bien que les relations avec Kubica, justement lui qui demandait que la voiture soit développée, elles se sont quand même un peu dégradées. Alors, il continue l'an prochain avec BM. Mais là encore, il y a une question de dynamique. Si la voiture marche très très bien, ça ira, mais si ça continue comme ça, ils sont pas à l'abri. Hein.
Faut pas oublier qu'ils vont arriver à des échéances où on va se retrouver avec... on peut penser que c'est soit la dernière ou l'avant-dernière saison de Raikkonen, et qu'il y aura donc un baquet chez Ferrari disponible, qu'on se murmure qu'Alonso irait là-bas, donc Renault va chercher un grand pilote, ils connaissent Kubica, ils peuvent très bien prendre Kubica. Si Alonso va pas chez Ferrari, on peut penser que Ferrari jettera son dévolu sur Kubica ou sur Vettel. Donc au final, ils peuvent être très perdants. Hein. C'est, il faut aussi qu'ils pensent à long terme. C'est bien de penser à long terme pour l'équipe, mais il faut aussi qu'ils pensent à la stabilité de l'équipe à long terme. Faut qu'ils le ménagent. Faut faire un peu ce qu'on fait avec Hamilton ou ce qu'ils ont fait Renault avec Alonso. Faut le chouchouter. Oui. Voilà. Il est meilleur que Heidfeld. Faut arrêter de le traiter comme un numéro 1, un numéro 1 ex aequo avec Heidfeld. Non, c'est un numéro 1 tout court. C'est du gâchis ce que fait BMW cette année.
Ouais.
C'est, il y a du potentiel, même si c'est vrai qu'on s'attend pas à ce qu'il gagne le championnat. Mais il y a l'occasion cette saison de s'imposer comme la troisième force du championnat. De faire des difficultés aux autres, et face à Renault, bah, sur la fin de saison, c'est Renault la troisième force du championnat. C'est Alonso.
Ce qui joue peut-être, c'est le changement de règlement l'an prochain. Est-ce que si on n'était pas resté sur le même type de règlement, ils n'auraient pas continué à développer? Là, c'est vrai que comme les voitures vont beaucoup changer, ça les a peut-être aussi poussé à abandonner.
Moi, je reste convaincu quand même que quand t'es lancé dans une saison, tu restes sur la saison. C'est BMW, ils ont les moyens. Il n'y avait pas encore la crise à l'époque. Encore, il y aurait la crise économique, on pourrait comprendre qu'ils mettent moins de moyens. Mais à l'époque où ils arrêtent le développement, il n'y a pas encore la crise économique. Arrêter de développer la voiture alors que on a les moyens de développer la voiture en dehors tout en maintenant une certaine activité sur la voiture de l'année en cours. C'est quand on veut jouer le titre, c'est ce qu'a fait Renault. Quand on veut jouer le titre, il faut se battre jusqu'au bout. Qu'ils arrêtent de développer quand ils voient que c'est pas jouable à 4 ou 5 courses de la fin, d'accord?
Oui, ça c'était possible.
Quand on arrive en Asie, ok, on arrête de développer, très bien. Mais il fallait au moins qu'ils continuent à développer au moins jusqu'à la Belgique ou jusqu'à Imola, jusqu'à Monza. Moi je trouve que c'est pas faire honneur à sa place en Formule 1, c'est une équipe que je respecte beaucoup, mais là sur ce coup-là, c'est une équipe qui, moi, m'énerve un peu. Moi, je suis énervé cette semaine. Contre Piqué, contre... Ah, je vais devenir Monsieur Hulk. Mais tout rouge. Justement, comme on parle de rouge, passons aux deux premières équipes.
Déjà, Kovalainen, bah, ça a été un peu à l'exemple de la saison. Il n'a pas été très utile à Hamilton. Il fait une course plutôt moyenne. C'est vraiment un grand regret parce que... Franchement, Kovalainen, bon, c'est vrai qu'il arrive dans une nouvelle écurie, mais on s'attendait qu'il est quand même un peu mieux que ça.
Mais Kovalainen, il y a eu des bruits, il y a eu des articles, etc., qui ont été faits après le Grand Prix de Chine, et qui faisaient état d'un certain mécontentement de Kovalainen à l'égard de McLaren, et notamment Kovalainen aurait confié à des proches amis, qui se sont eux-mêmes confiés à des proches journalistes, Kovalainen se serait confié que si ça continue comme ça l'année prochaine, il irait voir ailleurs. Je lui souhaite que ça continue comme ça l'année prochaine. Parce que...
Tu vois, pour Toyota, eh ben ça, c'est un pilote qui pourrait être utile à Toyota.
Oui, parce que d'abord, elle a l'expérience de deux grandes équipes. Il est pas ridicule. Moi, il a du tempérament. Il a la capacité, à fédérer autour de lui. L'inconvénient, c'est que là...
Une voiture.
Là, il n'y a rien à fédérer, quoi. Chez McLaren, il n'y a rien à fédérer. Non. S'il n'est pas content chez McLaren, faut qu'il fonce, faut pas qu'il s'occupe du reste de l'équipe. De toute façon, il sait très bien que les décisions vont être prises, qu'on va lui charger sa voiture, etc., pour faire qu'il roule pas. Donc, donc voilà. Moi, je trouve qu'il a un peu cédé face à McLaren. Il est inexistant. Et j'espère l'année prochaine qu'il va se rebeller un peu.
Ça m'a même surpris parce que je sais pas, j'aurais été à la place de McLaren, justement, j'aurais laissé Hamilton dans les diffuseurs et j'aurais mis Kovalainen vraiment en poisson pilote, vraiment faire en sorte si possible qu'il soit sur la première ligne par exemple, ou peut-être pas à la pole mais vraiment en première ligne pour essayer de foutre le bordel face à Ferrari.
Mais c'est ça qui est pas compréhensible chez
et puis après bon bah en fonction peut-être repasser derrière, mais le lancer tout de suite devant, ça aurait été intéressant. C'est un peu comme Renault, c'est une voiture, il a pas repris beaucoup de points au Ferrari. Hein. C'est sur cette voiture que McLaren perd le titre. Il a peu acheté sur sa saison.
Mais c'est ça justement. Tu parlais de Renault, à la différence de Renault, on a quand même l'impression que Renault, ils ont de l'attention pour piquer. C'est pas comme chez McLaren. Ils sont Alonso, mais ils s'occupent quand même de la deuxième voiture parce qu'ils savent ce que vaut la deuxième voiture. On a vraiment l'impression chez Renault que c'est piqué qui est pas au niveau. C'est tout.
Ouais.
Là, on sent que Kovalainen, on l'a vu en début de saison. Il peut rivaliser avec Hamilton. Comme tu disais, lui mettre On fait gérer Hamilton, on lui met une voiture un peu plus lourde. Comme Hamilton, c'est un bon pilote, il va partir 4 ou 5 comme il a fait, mais avec une voiture un peu plus lourde, bien réglée, et mettre la stratégie légère à Kovalainen, le mettre le plus léger possible, oui. Comme tu disais, parce que c'est justement un pilote rapide qui peut conquérir la pole, qui peut faire chier Massa s'il s'y met, et puis en même temps, ça aurait été lui donner confiance, lui dire voilà, tu participes à l'équipe. Là, on a vraiment l'impression que Kovalainen, il est même pas invité à participer à l'équipe. Et c'est, moi, ça m'énerve parce que voilà, Kovalainen, c'est un pilote que je l'ai plusieurs fois dit, je l'adore. J'ai découvert à Paris quand il avait fait la course des champions au Stade de France. Il a battu Schumacher. Il a montré des très belles qualités à l'époque où il était chez Renault. Il a eu du mal à partir, mais il a fait une très belle fin de saison. En début de saison, chez McLaren, il a fait quelque chose de bien. Et là, on a l'impression, voilà, il se sent pas concerné par l'équipe. L'équipe, on a l'impression que la deuxième voiture, elle n'existe pas. On a appris cette semaine que, apparemment, Denis, il restait chez Ferrari, chez McLaren. S'il restait chez McLaren, il allait peut-être prendre un peu de recul. J'espère que s'il y a une nouvelle direction chez McLaren, en tout cas un nouvel homme fort qui s'impose, j'espère qu'il redonnera un peu plus de place à Kovalainen, parce qu'ils en ont besoin, parce que là aussi c'est à Mercedes de taper du poing sur la table, de dire votre chouchou c'est Hamilton, c'est bien, mais on peut pas gagner un championnat pilote face à Ferrari, qui a deux pilotes traités à égalité, qui sont deux pilotes qui ont les deux dernières saisons joué le titre, on ne peut pas se priver d'un deuxième pilote. Surtout qu'on en a un qui marche bien. Kovalainen, c'est un bon pilote. Voilà.
Et donc, tu voulais qu'on passe à l'autre Finlandais?
Bah ouais. Ça, on garde le suspense pour le duel.
Bon, il était un peu démotivé quand même, Raikkonen. Hein. On va dire qu'il ait fait
tout le monde, tous les blogueurs, enfin tous les journalistes F1 qui étaient présents ce week-end au Brésil, ont tous dit la même chose. Raikkonen, il avait déjà l'air en vacances.
Voilà.
Voilà. Il fait.
On sait bien parce que en vacances, il finit quand même troisième.
Il finit troisième et puis on l'a ressenti quand même, même si ça a été éclipsé par le duel Massa Hamilton, etc. On l'a senti vraiment tranquille quoi, rouler oui. le coup de la portière, mais bien rouler quoi. Il remonte comme une flèche, je crois, c'est à la fin de la course sur Alonso.
En même temps, il est tranquille, mais il est entre Massa et Hamilton, donc il fait son job.
Mais je veux dire même plus que son
donc il y a rien à
job, contrairement à ce que certains pouvaient espérer, son job c'était pas d'être deuxième. Son job c'était justement, non. comme tu dis, d'être entre Massa premier et Hamilton. Son boulot c'était voilà. d'être devant Hamilton. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à Trulli. Fallait surtout pas qu'il dépasse Trulli. Fallait qu'il laisse une voiture devant lui. Parce qu'en laissant une voiture devant lui, et c'est deux points en plus.
C'est encore une place derrière.
Voilà. Donc plus loin il était en fait, Raikkonen. Mieux c'était. Il était loin. Il était devant Hamilton. C'était très bien. Pour ça en plus, il pouvait ralentir Hamilton. Hamilton qui n'allait pas prendre le risque d'aller se frotter à un pilote Ferrari.
Et il profite des mauvais résultats de BM pour reprendre la troisième place au championnat.
Ouais, au nombre de victoires.
Ce qui est quand même plus du standing d'un champion du monde en
titre. Ah ouais, parce que
même si ça aurait pu être. Ouais.
C'est sa place. Je sais même pas comment avait fait Schumacher. Il avait fait troisième, je crois, en 2005. Mais ça avait été chaud. Hein. Ouais. Là encore, ça avait été chaud.
Ah le début de saison, pas terrible.
Ah la vache, je viens de revoir les statistiques du début de saison. Ouais, c'est bon, début de saison puis milieu de saison aussi. Hein.
Ouais.
Heureusement, il y avait le Grand Prix des États-Unis à cette époque-là. voilà, on a dit ce qu'il fallait sur les deux Finlandais. Je sais que toi, tu attends l'année prochaine.
Oui, mais j'attends l'année prochaine depuis 2 mois.
Donc, passons aux deux premiers, Massa et Hamilton. Et c'est très dur de les départager.
Oui.
Alors,
d'ailleurs, même en termes de points, ça a été dur.
Si on avait fait le top flop,
oui.
Moi j'aurais mis Massa dans les tops et j'aurais mis Hamilton dans les flops.
T'aurais mis Hamilton dans les flops.
Alors que effectivement Hamilton est champion et que Massa n'est pas champion. Je m'explique. Parce que moi j'aurais fait le top flop par rapport à la course et par rapport à ce qu'on attendait d'eux.
Ouais.
On attendait vraiment de Massa ce qu'il a fait. Moi j'étais très surpris. Tu te souviens, hein, j'avais pronostiqué Massa il ferait même pas un podium.
Ah oui d'ailleurs. Est-ce que tu te souviens, t'avais dit oui que je me moquerais de toi, donc je me moque de toi. Raikkonen, non, il faut pas déconner.
Et c'est un fan de Kimi qui dit ça. Mais oui, moi j'étais vraiment très surpris par Massa, qui tout du long du week-end a vraiment semblé totalement imperméable à la pression. Ça m'a
il a surpris. Fait ce qu'il fallait.
Il a fait ce qu'il fallait, il était en tête, il a fait son boulot, il a rien à se reprocher. Et puis il a superbement perdu. Un quart d'heure après, on avait des dépêches. Il venait de vivre la désillusion au sport de sa carrière parce que le reste.
C'était terrible de le voir dans sa voiture à l'arrêt. Où il ouvre sa visière et on voit il est en larmes.
Ah ouais, c'est et je trouve que il a été digne dans la défaite, qu'il a été oui. Qu'il a été il a été ce qu'on attendait de lui, alors que Hamilton, et là je vais m'étendre, pour moi Hamilton il a failli perdre le titre tout seul. L'année dernière, ils ont voulu gérer. Faut dire ce qu'il dit, quoi. L'année dernière, c'était pas l'attaque, quoi. Mais ils disaient bien, on gère. Ils se sont pris les mains dans ils se sont mélangés les pinceaux. Mais voilà, ils gèrent. Là, ils ont quand même failli passer à côté pour un virage. McLaren aura quand même beau dire, oui, on savait qu'on allait dépasser Glock.
Ils ont vraiment eu peur au moment de changer les pneus pour remettre les pneus pluie. Ils ont vraiment attendu en fait que Massa rentre au stand, parce que je pense qu'ils avaient vraiment, c'était de rentrer trop tôt, et donc de perdre des places, et de ne pas arriver à les reprendre.
Mais normalement, en plus, c'est un truc, on va revenir sur notre ami Malbranque qui a 22 tours de la fin,
oui,
nous vendait déjà Hamilton champion. Je pense que même
il nous a réécrit toute la saison.
Dès le départ, Hamilton était champion, il a dominé la saison, ok. Bon, n'empêche pas que c'est Massa qui a le plus grand nombre de victoires, bon, ok. Il nous a vendu Hamilton champion, ce qui est déjà, pour moi, alors qu'on annonce la pluie avant la fin de la course,
oui,
quelque chose d'inadmissible. Et en plus, il disait, ouais, cinquième place, c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon quand il reste 25
c'est
tours. C'est pas bon. Il fallait, effectivement, la McLaren, elle a pas le niveau d'une cinquième place. Elle a, au pire, le niveau d'une troisième place. Il fallait qu'il place la McLaren troisième. Là, il y a un ou deux pépins, ça peut passer. Et vraiment, faut qu'il y ait un gros pépin. Et là, dans ce cas-là, tu te dis, bon, bah, d'accord, je suis pas champion, mais là, vraiment, j'avais rien à faire, quoi. J'ai cassé le moteur, il y a eu un incident et j'ai fini au-delà de la sixième place. Mais là, avoir le frein à main comme il l'avait tout le week-end, et c'est pas que de Hamilton, hein, c'est aussi de McLaren, ils ont failli se faire prendre à leur propre piège. Ils ont eu, je pense, ils ont eu peur de revivre ce qu'ils avaient vécu l'année dernière.
Oui, voilà.
Où ils avaient essayé de gérer, mais en même temps d'attaquer. Et voilà. Et je pense qu'il y avait cette espèce d'énorme fantôme qui était dans le baquet et dans le stand. Et que, voilà, ils ont voulu être prudents. Sauf que, comme le dit Froissart sur son blog, on force pas pur sang à marcher au trot comme un âne, quoi. Là, c'est ce qu'on a demandé à Hamilton. On lui a dit, gère. Sur ce coup-là, honnêtement, Hamilton champion, ça me déçoit. Surtout quand c'est la course, tu finis champion, tu finis avec le frein à main. C'est bien de gérer. C'est bien de vouloir jouer les points intermédiaires. Mais il faut jouer les points intermédiaires quand t'as que ça de contenter. Quand ta voiture, elle vaut un podium, et bah tu te bats pour le podium. Voilà. Je dis, je suis énervé, moi, cette semaine.
Non, mais... Malgré tout, sur la saison, son titre, il l'a pas volé.
Ah non, il a pas volé. Puis en plus, faut vraiment reconnaître, le scénario qui se profilait...
Oui.
À deux virages de la fin, c'est Massa champion parce qu'il est à égalité de points avec Hamilton et qu'il a juste une victoire de plus, la fameuse victoire de Spa qui à l'origine était à Hamilton.
Voilà.
Donc là pour le coup, c'est même pas gagner avec des points d'avance, c'est gagner ex aequo. D'accord, ça donne le titre, mais ça donne un titre qui a quand même un goût amer.
Voilà. Là au moins, il n'y a rien à dire.
Rien à dire, là il a gagné avec un point d'avance. On sait très bien qu'avec toutes les affaires de cette saison, il aura gagné avec plus de points d'avance. Donc là, franchement, non.
Mais Ferrari peut avoir vraiment beaucoup de regrets. Parce que ce titre, plus que Massa, c'est un peu l'équipe qui le perd.
Bah, il le perd.
Parce qu'il y aurait quand même eu beaucoup moins d'erreurs. Les choses auraient quand même été très différentes.
Avec Desi, on refait le monde. Et voilà, Hamilton, il est champion. On peut rien y faire. C'est pareil, si on l'a dit tout à l'heure, si McLaren se met à se concentrer sur Kovalainen, eh ben là il y a rien à dire, quoi. McLaren, ils sont champions du monde. Je trouve qu'on a en fait finalement un résultat qui était attendu et qui est relativement logique par rapport à la physionomie de la saison. On a Ferrari qui a pris un départ sur les chapeaux de roue et qui, je dirais pas à gérer, mais heureusement
sauf
qu'ils
les
ont...
deux premières courses.
Oui, mais enfin quand même, au niveau des performances, enfin les deux premières courses, on sent le potentiel de la voiture. Ils se foirent complètement en Australie, mais bon, ça on sait, en Australie c'est particulier. Mais à partir de la Malaisie, il y a rien à dire.
C'est fou quand même de penser que Massa, je sais pas si tu te rappelles, mais après ces deux premières courses qui étaient terribles, c'était limite si il était pas viré par Ferrari.
Il était remplacé par
lui.
Donc ouais, voilà, on a eu un beau final comme ça, que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. Ouais. Moi, j'avais pas autant vibré. Je m'étais fait peur l'année dernière.
L'année dernière, c'était quelque chose. Et c'est d'ailleurs justement parce que c'était quelque chose, tu te souviens, là, quand on avait parlé lors du dernier SAV, on se disait, ça peut pas se passer deux fois de suite comme ça, cette année, il va rien se passer, ça va être tranquille.
Ouais.
Ça aurait pu se passer, parce que après qu'il y a eu la pluie, donc quand la piste est redevenue sèche, faut avouer, le milieu de la course, il s'est pas passé grand chose.
Ouais, il était un peu plomb-plomb.
Hein ? C'est parce que la pluie est revenue à la fin. Et bah finalement, oui, on a réussi à avoir quelque chose d'aussi fort que l'an dernier, et je dirais même plus fort encore. Parce que là, c'était vraiment concentré, c'était au tout dernier moment.
Ah, c'était les dernières secondes de course. On a revécu la course de Spa, en fait. Mais sans la polémique qu'il y a autour, il y a toujours la polémique Gluck. N'importe quoi. Moi, j'ai vraiment pris du plaisir à regarder ce championnat, et je me suis même surpris. Alors que j'étais quand même dégoûté, parce que pendant 45 secondes, on a touché un titre inespéré une deuxième année de suite. Ouais. Quand Hamilton se gare et qu'il a du mal dans la ligne des stands à remettre son volant, et qu'on le voit qu'il pose le volant sur la voiture, je lui hurle, mais remets ton volant, quoi. Parce que s'il remet pas son volant, on sait que la FIA va pas le louper.
Ouais.
Elle est capable de lui coller ne serait-ce que 10 secondes de pénalité. Là, il prend 10 secondes de pénalité, il est 7e.
Mais là, ça aurait été monstrueusement injuste. Ah,
ça aurait été terrible. Mais ouais, l'année dernière, ils ont bien failli le faire. Hein. Ils ont bien eu... Ouais. Non, quoi que c'était McLaren qui avait dit « Non, non, attention, nous, on fait appel. » Bah, c'est ça, appeler. Donc, on a un beau champion du monde mérité sur la saison. Et je trouve qu'on a un beau vice-champion du monde. Et qui... je change un peu d'opinion sur Massa, avec cette course.
Ouais. Faut avouer que au début de saison... On se disait, Massa, gagner des victoires, oui, gagner un titre, non. Et au final, il a manqué rien.
Mais moi encore, dimanche à 17h58, je disais, bon, voilà, c'est la dernière chance de Massa. Après, il aura plus d'occasion de courir pour le titre. Et je commence à me dire que il a fait une saison un peu fragile à l'image de ce qu'a fait Hamilton l'année dernière.
Mais qui sait?
Et que s'il se retrouve, et c'est justement pour ça que quand je parle de BMW qui gâche sa fin de saison, justement, fallait qu'ils aillent au bout de la saison pour faire les erreurs de manière à apprendre et l'année prochaine ne pas refaire les mêmes erreurs. Hamilton, l'année dernière, à la fin de la saison, il fait des erreurs, il gère la fin de course, il gère la fin de saison, c'est un peu maladroit, mais bon, il la gère quand même, et au final, il s'en sort. Massa, cette année, il a fait des bêtises au Japon. Ferrari a pas nécessairement bien géré, parce que même si c'est Ferrari, l'équipe est encore un peu jeune, hein, ça fait 2 ans qu'ils sont là, il y a eu beaucoup de changements, donc il faut qu'ils se reconstruisent. Puis c'est vrai qu'en 2007, ils n'ont pas eu vraiment l'occasion de gérer la fin de saison, parce que ils étaient à l'attaque tout le temps, donc il n'y avait rien à faire. Là, c'est vrai que Massa, il a l'expérience de la défaite, il saura la réexploiter. S'il se retrouve dans cette position-là, Massa, là, pour le coup, j'y croirais. Alors que cette année, j'y croyais pas du tout.
Oui, et pourtant.
Et pourtant. Donc voilà, on a fini par le on a fini pour le team par team, je pense, non?
Et oui, bah oui. Enfin, hein?
Non, mais
à moins qu'il y ait une écurie de F1. Mystère.
Alors oui, on a oublié Super Aguri. Super Aguri qui se classe donc 11e. Faut en parler. Même pas classé. Je sais même pas quand ils ont arrêté en Espagne, je crois, Super Aguri.
Ouais.
Ah non, ils ont fait 5 courses cette année, n'empêche. Ils ont fait 19e, 21e, 19e, 21e. Ah non, ça c'est la grille. Ils ont fait abandon en Australie, 16e, 15e en Malaisie, 17e, 16e à Bahreïn, 13e et abandon en Espagne, et puis ils se sont retirés en Turquie.
Voilà.
Voilà.
On fait les classements ?
Oui.
D'abord, celui de la course.
Vas-y. Alors attention, vas-tu réussir à battre le record de la dernière fois ?
Oh.
Je te lance un défi.
Bon.
Attention.
Premier Felipe Massa, deuxième Fernando Alonso, troisième Kimi Raikkonen, quatrième Sébastien Vettel, cinquième Lewis Hamilton, sixième Timo Glock, septième Heikki Kovalainen, huitième Trulli, neuf Weber, dix Heidfeld, onze Kubica, douze Rosberg, treize Button, quatorzième Bourdais, quinzième Barrichello, seizième Sutil, dix-septième Nakajima, dix-huitième Fisichella, abandon Nelson Piquet et David Coulthard.
Les deux sur accrochage.
Ouais.
C'est bien, hein, moi je dis bravo. Allez hop, on applaudit. Voilà, on aura fait ça cette saison. C'est le rush de la fin de saison. Parce qu'à vrai dire, le classement de la course, on en a rien à faire.
Oui, c'est plutôt...
Sur la dernière course, on en a vraiment rien à faire. C'est le classement.
Meilleur tour en course pour Philippe.
Il fait un
36e tour.
Un trick avec la victoire, le meilleur tour et la qualification.
Ouais.
Ce qui fait, si je ne me trompe pas, que notre ami Kimi Räikkönen ne battra pas le record cette saison.
Eh non.
Saison de merde.
Mais il aura même pas eu ça.
Ouais, même pas. Pourtant, tout le monde dit, hein, il fait des super bons temps. Hein. Mais non, il n'a même pas le record.
Poutineur. D'ailleurs, il l'a refait, là.
Oui, oui, c'est vrai, on l'a sorti à la data Poutineur. Il y a un truc, je sais pas, il doit manger juste avant la course. Et là, il est à sa pause post-prandiale. Voilà. Et il est en train de faire sa petite sieste pendant une heure. N'empêche, le mec qui roule à 200 à l'heure et on dit qu'il fait sa sieste.
Alors, les championnats.
Vas-y, mon kiki.
Premier, Lewis Hamilton, 98 points. C'est le en anglais depuis Damon Hill.
En 96.
Ouais. Le premier titre pour McLaren Mercedes depuis 99.
Voilà.
Et Mika Häkkinen.
C'était déjà un titre pilote alors que Ferrari était...
Ouais, déjà, ouais. Il est le plus jeune champion du monde de Formule 1 à 23 ans, 9 mois et 26 jours. Devant Fernando Alonso.
Et voilà. Bientôt derrière Vettel. Oh, comment je m'avance.
Waouh.
Deuxième, Felipe Massa.
97 points, un petit point, comme l'an dernier.
Alors, premier, deuxième du championnat depuis Barrichello en 2004. Hein. Plus jeune deuxième du championnat.
Je sais pas.
C'est même pas vrai parce que c'est Lewis Hamilton l'année dernière.
Bah ouais.
Plus jeune deuxième, plus jeune premier, puis titré dès sa deuxième saison, faut le faire. Il pouvait déjà être titré dès sa première, mais oui. Titré dès sa deuxième saison, c'est...
C'est rare.
Voilà.
Troisième, Kimi Räikkönen, 75 points.
Yes.
Qui est devant Kubica, qui est aussi à 75 points, mais Kimi, il a deux victoires.
Voilà, oh, dis donc, c'est dur à dire, deux victoires. Il y en avait six en 2007.
Ouais. Cinquième, Fernando Alonso, 61 points. C'est quand même fou.
En Italie, il était 7e à la lutte avec Trulli, et il avait que 28 points. Et là, il en a 61.
Ça montre quand même le nombre de points qu'il a marqué.
C'est assez hallucinant. Et puis, on se dit que il est pas loin de la tête.
Oui.
On se dit, voilà, il est qu'à 14 points de Raikkonen et de Kubica. Si la Renault s'était réveillée plus tôt, il aurait pu peut-être mettre son grain de sel.
Alors, 6e,
Nick Heidfeld.
C'est Heidfeld, 53 points.
60 points. 53, c'est Kovalainen. 60 points, c'est
Heidfeld. 60 points, d'accord. C'est donc l'intrus, parce que c'est le seul des 8 premiers qui n'a pas gagné de course. Peut-être l'an prochain.
Pouf.
Donc 7e, tu l'as dit, Kovalainen avec 53 points.
Quand même. Mais c'est vrai que...
Pour une saison moyenne...
Faudrait quand même se pencher sur les autres, sur les autres championnats. Mais un numéro 2 aussi faible par rapport à son leader, ouais, qui est champion du monde... je me demande même si Fisichella, c'était pas mieux. Fisichella, il avait 72 points, donc ouais, il avait un peu plus de la moitié. Mais il avait 72 points, quoi, par rapport à 134.
Ouais.
Et l'année d'avant, c'était plus loin. Ah ouais, c'était... Oh, non. Fisichella est pire que Kovalainen, rassurons-nous.
Alors, 8e, Vettel, 35 points. Là, il y a un petit creux, quand même, qui... 9e, Jarno Trulli, 31 points.
Bouh! Bouh! Ah, vous avez compris que là, Jarno Trulli m'a énervé ce week-end.
10e, Timo Glock, 25 points.
Il finit pas très loin de son leader.
Non?
6 points pour la première saison, c'est bien. Surtout que Trulli, ça reste quand même un pilote solide. Et puis c'est des points acquis assez tardivement dans la saison, alors que Trulli, c'est plus diffus.
11e, Marc Weber, 21 points. Ça a été plutôt discret quand même, la saison de Marc Weber, comme la saison de Red Bull de toute façon.
Bah voilà, ils ont bien commencé puis ils ont mal fini.
12e, Nelson Piquet, 19 points.
Ouais.
il a réussi quand même à récupérer 19 points.
Ouais, c'est ça qui est dingue. C'est à force de taper dans les murs, faut bien à un moment donné qu'il tombe sur quelque chose.
Ouais. 13ème, Nico Rosberg, 17 points.
C'est ça le truc, c'est que Piqué, il finit à peine devant Rosberg.
Oui,
et qui est, qui est un super bon pilote, mais franchement, vu le niveau de la Williams cette saison.
14ème,
Barrichello.
Peut-être retraité, on ne sait pas, mais c'est quand même probable, Barrichello, avec 11 points. 15ème, Nakajima, 9 points. Bon, bah, c'est la Williams. Hein.
Voilà.
16ème, David Coulthard, 8 points. Il a fait un podium. Donc ça aussi.
Au Canada. Ah, bah oui.
Voilà. 17ème, Sébastien Bourdais, 4 points. Et pourtant, il aurait dû quand même en avoir plus que ça.
Il aurait dû au moins en avoir 15.
Ouais.
Et donc, 18ème, Button 18ème, avec 3 points.
3 points. Donc, quand tu parles de Barrichello.
Grand Prix d'Espagne. Voilà.
Et donc, bah, non classé, les deux Force India, Sutil et Physique est là.
Alors, au classement constructeur, nous avions Ferrari champion du monde.
Le 16ème titre pour Ferrari, ouais. Des constructeurs.
En 10 ans.
Ça va devenir dur à rattraper. Hein.
En 10 ans, 8 titres constructeurs. C'est. Il n'y en a que 2 qui l'ont échappé. Et, bien évidemment, petite fierté cocorico pour les Français. La seule écurie à avoir battu Ferrari au 21ème siècle.
Les dernières années.
C'est Renault. C'est dingue. C'est fou.
Ouais, c'est dingue. T'as raison.
McLaren 2ème avec 151 points. BMW 3ème avec 135 points. Comme quoi, effectivement, BMW aurait pu jouer sa chance. Mmh. Renault 4ème, largement avec 80 points. Meilleure saison que l'année dernière.
Oh oui, largement.
Toyota 5, qui fait l'une de ses meilleures saisons depuis 2000, on a dit 2005, ah, voilà, c'est ça. Vous avez fait 4ème, mais là, franchement, il n'y avait pas de la place devant pour leur place. Ils sont 56 points. Toro Rosso Ferrari 6ème avec 39 points. Mmh. Red Bull 7 avec 29 points. Williams avec 8 points, avec 26 points et 8ème. Et Honda avec 14 points et 9ème.
Et donc Force India, bah 0 plus 0, ça fait 0. La tête
est tout haut.
Voilà.
Là, je trouve au niveau du classement, on a quand même une grosse saison. Je trouve que on a un champion constructeur qui n'est pas forcément super élevé. On se souvient de l'année dernière, ça avait été à 221 points, je crois.
Oui.
Mais on voit que ça a profité aux petites écuries derrière. Si on prend le classement 2007. On voit Ferrari avait 204 points, BMW Sauber 101, bon, on retire McLaren. Et puis derrière, c'était un peu pas grand-chose, Toro Rosso 8 points, Honda 6, Super Aguri 4, Piker, c'est quoi maintenant? C'est Force India 1 point. Donc on voit que ça s'est quand même bien densifié à l'arrière, c'était une belle saison parce que il y a eu de la place.
Et même McLaren, hein, ils étaient à 200 points. Hein.
Voilà, donc c'était... mais ils avaient Alonso. Et ben voilà, donc rendez-vous dans 2 mois et demi, 3 mois. En attendant, continuez à vous informer, comme dirait Shinji, sur les sites spécialisés. Il y en a des tonnes qui offrent des informations diverses. On vous invite aussi à visiter les blogs de Jean-Louis Moncet et de Lionel Froissart. Jean-Louis Moncet qui nous donne souvent des informations exclusives et Lionel Froissart pour son analyse de la F1.
C'est très éditorialiste, c'est-à-dire qu'on aime ou on n'aime pas, voilà. Mais c'est toujours intéressant à lire.
Et puis, rendez-vous toujours sur le site d'Enzo, sur nos blogs à nous, hein, parce que je pense que si jamais il y a des grosses infos en F1, on ne manquera pas d'en parler. Donc, au revoir, joyeux Noël à tous.
Ouais, joyeux Noël.
Et bonne année.
Bonne année.
Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement.